Alors nous accueillons cette énergie de supraconscience par le véhicule du chariot blanc, dont nous recevons les vibrations par le son, le souffle et la lumière.
Bienvenue à vous-même, André.
Merci. Alors ce soir, comment activer l'alchimiste en soi?
C'est un thème intéressant. D'abord, avant de parler de l'alchimiste à l'intérieur de vous, nous allons vous situer dans une parenthèse un peu plus large. C'est-à-dire que pour savoir où vous allez, il est bon de savoir d'où vous venez. Vous ne pouvez pas connaître une chose si vous n'en connaissez pas son opposé. Ceci est déjà une pensée alchimique. Dans un premier temps, nous n'allons pas reculer au début de la naissance de l'homme dans le grand chaos de la Terre, mais nous allons parler du moment où les religions ont surgi au niveau de la surface de la Terre, c'est-à-dire dans la conscience ou l'état de conscience ou le niveau de conscience de la race humaine à ce moment-là. Souvent, les religions ont été issues de la présence de grands maîtres qui sont venus sur le plan terrestre. Et alors, les gens qui avaient fréquenté ces maîtres ont d'une façon ou d'une autre interprété de toutes sortes de manières les enseignements qui se sont perdus et dilués en cours de route. Alors, nous parlerons des religions. Nous ne disons pas uniquement la religion catholique, nous parlerons de religion chrétienne et en utilisant ce terme, nous voulons dire... comme si nous disions que les gens de la race humaine sont des chercheurs de Dieu. Et alors, ils cherchent à travers ce véhicule qui est appelé religion. Si vous regardez la religion de la chrétienté ou la religion catholique à laquelle vous avez presque la grande totalité d'entre vous appartenu, regardez bien que ceci était une démarche de conscience dans la mesure de l'évolution de la race humaine. Vous avez tous participé à ceci, vous êtes partie prenante, vous n'en êtes pas en dehors. Alors, qu'est-ce qu'a fait cette religion chrétienne? Elle a divisé. Elle a divisé parce que la conscience humaine était divisée et incapable de recevoir une autre dimension ou une autre vibration. Comment a-t-elle divisé? D'abord, dans un premier temps, elle s'est adressée à la partie extérieure de l'être et de ses comportements. Elle a créé des schismes, elle a créé, nous dirons, toutes sortes de réalités, des dogmes, des lois, des structures, des péchés, des enfers, un peu tout cela. Et elle a mis en opposition chacune de ces réalités. Et alors, ce qu'elle disait aux chrétiens et interpréter ceci comme ce que vous vous disiez, c'est que quelque part, il fallait, lorsqu'on a la connaissance du bien, éliminer le mal. Alors, devait demeurer uniquement ce qui était bien. Ceci a engendré des formes comme les formes suivantes, par exemple, des vœux de chasteté, des réclusions dans le désert, des monastères fermés sur eux-mêmes, et nous vous dirons toujours toutes ces dogmes et ces lois qui étaient extérieures. Et ceci a amené le peuple, dans la conscience où il était à ce moment, à une forme de soumission ou une forme de rébellion. Ceux qui étaient soumis suivaient l'Église pas à pas. Ils ne pouvaient pas poser un geste ou avoir une forme pensée qui n'était pas soumise à l'Église, car alors ils auraient pensé d'eux-mêmes qu'ils étaient mauvais et qu'ils goûteraient l'enfer. Il y a eu les rebelles qui, eux, ont créé des divisions et des schismes, et très souvent, toutes sortes de formes de tentacules associées, dont nous parlerons un peu plus tard. Alors, ces gens qui avaient fait le vœu de chasteté et qui avaient créé des frustrations dans leur énergie, nous parlons de la chasteté, nous pourrions parler d'autre chose, mais nous savons que c'est un sujet qui vous intéresse et qui vous interpelle. Alors nous vous dirons à ce moment-là, que se passait-il? L'homme devenait divisé en lui-même. Il avait d'un côté de lui une pulsion et un désir qui l'interpellaient, et de l'autre côté une consigne et un vœu qui le retenaient. Alors il demeurait sans cesse dans cette tension à l'intérieur de lui. Cette tension était nécessaire pour lui permettre d'accéder à d'autres vibrations. Ceux qui n'acceptaient pas de faire ses vœux de chasteté et de se vouer totalement à la religion et à Dieu, disait-on, ceux-là étaient les vulgaires citoyens, la race bien ordinaire, considérée comme beaucoup moins évoluée. Mais nous vous dirons, toutes ces tensions et ces frustrations ont existé chez les uns comme chez les autres à cause de cette limitation de la compréhension de l'alchimie. Et cette compréhension était impossible puisque la race humaine n'était pas assez évoluée pour être capable de comprendre ce qu'était l'androgynie, par exemple. Alors l'Église demandait aux gens d'être androgynes, elle leur demandait d'être des anges, alors qu'ils n'avaient pas passé par ce processus alchimique de la fonte de leurs énergies. Quelle a été la conséquence des ruptures et des groupes qui se sont formés à l'extérieur? Cette tension étant devenue insupportable, alors il y a des êtres qui ont commencé à se questionner, et vous êtes aussi du nombre, et qui ont commencé à créer ces cellules appelées secrètes. Pourquoi? Parce que là, on ne s'adressait plus à ce qui était extérieur, donc exotérique, mais à ce qui était intérieur, donc ésotérique. Parmi ces sept, vous pouvez retrouver, par exemple, les gnostiques, les cathares, les templiers, les rosicruciens et d'autres encore que votre recherche pourrait vous permettre de comprendre et de saisir. Alors, quel était le but et l'objectif de chacune de ceux que vous appelez aujourd'hui des sept? C'était de pouvoir sortir de l'exotérisme et en entrant dans les eaux, sortir de l'exo pour entrer dans les eaux, c'est-à-dire ce qui est intérieur, arriver à trouver des formules qui permettraient de sauver la race humaine. Étant donné le niveau de conscience une fois encore, il était presque impossible de s'adresser véritablement à la spiritualisation de la matière. Ce qu'on cherchait d'abord, et c'était le but de, nous dirons, ces sociétés secrètes considérées comme alchimistes ou membres d'écoles alchimiques, c'était, nous dirons, deux choses principales. D'abord, de trouver un médicament. Et ce médicament, bien, nous dirons, conceptualisé, aurait une fonction, celle de guérir exactement toutes les maladies chez toute la race humaine, peu importe la nature de la maladie. Nous croyons que les laboratoires, actuellement les laboratoires chimiques disent bien le contraire. Et le second but qui était poursuivi par les alchimistes, c'était d'arriver à pouvoir extraire des métaux qui étaient plus denses, une matière plus subtile. Comment procédait-il pour arriver à ces formes alchimiques ou pour faire ce travail alchimique? Nous vous dirons que ceci a réussi dans certains cas, mais dans peu de cas, chez ceux qui étaient véritablement des maîtres et qui connaissaient l'alchimie intérieure. Alors, ils utilisaient un métal appelé le mercure. Le mercure est un métal bien précieux. Nous en reparlerons tout à l'heure lorsque nous ferons la correspondance avec le travail que vous avez à opérer en tant qu'alchimiste sur vous-même. Alors, le mercure est un métal différent de tous les métaux. D'abord, il est deux. Ceci est très mystérieux. Vous pourriez même, et mettons ceci entre guillemets pour ne pas créer de polémique, disons que ce métal est en lui-même androgyne. c'est-à-dire qu'il est deux. Alors, il avait la capacité de pouvoir permettre, lorsqu'on prenait un morceau de charbon et qu'on le soumettait à certains niveaux de chaleur, de pouvoir en extraire de l'argent et puis de l'or à travers de multitudes de, nous dirons, de procédés différents. Alors, ce mercure, cette, nous dirons, ce lieu de la pierre philosophale, était uniquement un symbole, symbole que nous allons vous rappeler tout à l'heure. Quelle est la fonction? C'est de créer l'unification. Et nous vous dirons que ce métal est le seul qui est capable d'être liquide à la température ordinaire, c'est-à-dire qu'il contient déjà à l'intérieur de sa formule la fluidité. Venons-en maintenant à chacun d'entre vous comme alchimiste. Vous pouvez dire que vous êtes passé à travers toute cette expérience d'avoir été des gens d'église, d'avoir été des prêtres, d'avoir été des évêques, d'avoir été ceux qui ont imposé la norme et la loi, et d'avoir été aussi les chrétiens soumis à la loi. Vous avez aussi fait partie de toutes ces écoles que nous avons nommées tout à l'heure. Tantôt vous avez été cathares, d'autres parmi vous ont été templiers, et ainsi de suite. Et à travers ceci, vous avez été capable de pousser plus loin la réflexion pour comprendre que si quelqu'un veut trouver la paix entre deux opposés, ce n'est pas en éliminant un des opposés qu'il trouvera le bon ou le meilleur, mais c'est en arrivant à créer une forme d'identité entre ces deux réalités pour en extraire son essence. Si vous comprenez bien ceci, revenez à vous-même et dites-vous que vous êtes des alchimistes. Donc, si vous êtes des alchimistes, vous devez posséder à l'intérieur de vous ce grand bassin de mercure. Ce grand bassin de mercure est un bassin d'amour-conscience, c'est-à-dire de deux polarités parfaites qui ne s'opposent pas, mais qui sont complémentaires et qui ne peuvent pas vivre l'une sans l'autre. Vous ne pouvez pas aimer et être inconscient, vous ne pouvez pas être conscient et ne pas aimer. Ces deux réalités, ces deux polarités, vous pouvez même les appeler polarités, ne sont pas divisées. Elles sont exactement comme ce que nous appelions tout à l'heure le mercure. Elles sont deux et un à la fois. Alors, quelle sera votre démarche pour devenir alchimiste? D'abord, dans un premier temps, savoir que ceci est une démarche individuelle. Ce n'est pas une démarche collective, et avant d'en arriver à une conscience collective à ce niveau, ce travail doit être fait individuellement. Cependant, nous ne pouvons pas vous donner de recettes. Nous vous expliquons pourquoi. Parce que chaque être humain est différent de celui qui est près de lui. Il n'y a pas, dans les milliards d'êtres humains qui sont sur le plan terrestre, deux êtres humains pareils. Comme il n'y a pas deux cristaux de neige qui tombent même dans la plus grande des tempêtes et qui sont identiques. Il n'y a jamais deux brins d'herbe identiques. Il n'y a jamais deux feuilles d'un arbre qui sont identiques. Alors, à plus forte raison pour l'être humain. L'être humain est un être personnel. Il est seul de son espèce, même s'il appartient à une espèce générale. Comme chaque cellule de votre corps est une cellule unique, rien ne peut la remplacer, aucune cellule n'est identique à elle, et pourtant, elle fait partie de votre corps tout entier. Maintenant, si vous avez compris dans un premier temps que cette démarche individuelle est individuelle, vous ne pouvez plus vous fier à l'extérieur, ni à une église, ni à un gourou, ni à un maître, ni même au chariot blanc pour accomplir le travail. Vous pouvez aller cueillir des enseignements, Mais si vous n'accomplissez pas le travail sur vous-même, personne ne l'accomplira pour vous. Et alors, vous continuerez de rester dans le monde divisé où se retrouvent la peine et la douleur et la souffrance et l'angoisse et la mort, et ajouter tout ce que vous voudrez. Donc, dans un premier temps, c'est une démarche individuelle. C'est une démarche de responsabilisation. Dans un second temps, cette démarche doit vous permettre et se vivre ailleurs que dans vos trois chakras de la base. Parce que vos chakras de la base sont le lieu de l'astral. Ils sont le lieu de la connaissance de la division. C'est là que la division est enracinée à l'intérieur de vous. Donc, pour arriver à être capable d'être l'alchimiste, vous devez être capable de transcendance, c'est-à-dire d'avoir la capacité de vous placer au-dessus des polarités pour pouvoir les reconnaître, les apprécier, savoir si le bien est là, si le mal est là, savoir que le bien s'appelle le bien et que le mal s'appelle le mal. Mais que lorsque vous transcendez cette énergie, vous les amenez précisément dans ce grand bassin, nous dirons, de cet amour-conscience, et alors ces énergies peuvent se dissoudre et vous garder l'essence. Alors, vous n'aurez plus besoin de chercher la paix contre la guerre, vous serez devenu la paix. C'est bien différent, n'est-ce pas? Vous n'aurez plus besoin de chercher le masculin contre le féminin. Vous serez devenu la totalité de cette énergie androgyne. Vous n'aurez plus besoin de chercher la confiance par rapport à la méfiance. Vous serez devenu confiance. Et nous vous dirons, la méfiance, elle, aura servi comme le feu sert à brûler l'ivraie pour permettre au bon grain d'être engrangé. Jésus vous avait déjà, il y a 2000 ans, donné cet enseignement. Qu'adviendra-t-il à celui qui va décider de développer cette conscience? Ce qu'il va faire, il va comprendre que là vient de s'ouvrir pour lui la porte capable de le faire sortir du monde de la souffrance qu'il vit depuis des millénaires, de la mort qu'il vit depuis des millénaires. Et nous vous dirons de tous ces cercles vicieux qui vous ont emprisonné et enchaîné. Il comprendra que la porte est dans l'unité. Il saura très bien que devenir alchimiste ne veut pas dire devenir parfait, mais devenir unifié. Et c'est très différent. Alors, il poursuivra sa quête et il investira complètement toute son énergie à être capable d'unifier ses forces à l'intérieur de lui. Qu'adviendra-t-il à ce moment-là? L'expérimental et le transcendantal feront un. L'esprit et la matière seront un. Le manifesté et le non-manifesté seront un. Et là, l'être humain pourra reconnaître qu'il est Dieu. Mais direz-vous, si vous ne nous donnez pas de recette ce soir, comment saurons-nous que nous avons transcendé? Comment saurons-nous que nous avons été un alchimiste parfait? Nous allons vous donner un signe qui n'est pas difficile à retenir. Et ce signe sera que vous n'aurez plus à défendre une valeur contre une autre valeur. Vous n'aurez plus rien à prouver, vous n'aurez plus rien à défendre, parce que vous saurez que tout est parfait et que ce chemin chaotique vous conduisait depuis le début vers cette unité intérieure que les chercheurs de Dieu que vous êtes ont cherché à travers tous ces quinquas, tous ces brouhahas, toutes ces difficultés et ces souffrances. Mais quelque part où vous saviez déjà dès le départ que vous alliez vers cette transcendance, que vous alliez vers l'unification de cet amour, de cette conscience. et nous vous dirons de cette totalité que vous êtes. Maintenant que nous avons donné cet enseignement, que nous aurions pu élargir, bien sûr, nous allons donner du temps à vos multiples questions.
Alors, comme première question, merci de votre si bel accompagnement au fil des jours, de votre soutien et de votre amour. Alors, puisque le thème porte sur l'alchimiste, pourriez-vous nous parler du lien très étroit qu'il existe, selon moi, entre l'alchimiste et l'enfant intérieur? Il me semble que, dans mon énergie, ils sont indissociables.
Nous vous dirons, c'est amusant que vous teniez ces propos. Bien sûr que l'enfant intérieur est le symbole alchimique. Vous ne voyez pas l'enfant défendre le bien contre le mal. Nous parlons de l'enfant pur qui, nous dirons, ne s'est pas retrouvé dans un milieu où il a dû avoir un ego terrible pour se défendre des attaques tout autour de lui, mais de l'enfant très pur qui ne pose pas de regard de jugement. Alors, ce n'est pas nécessairement l'enfant tel que quelques enfants que vous voyez jouer dans la rue, se battre et se quereller contre les autres, devenir des compétiteurs déjà en bas âge, vouloir être les meilleurs, nous dirons même des préclasses. Alors, nous vous dirons, ce n'est pas cette forme d'enfant, c'est la pureté de votre énergie. Et lorsque Jésus disait, si vous voulez entrer dans le royaume, redevenez cet enfant. Et redevenir cet enfant, c'est entrer dans cette énergie de simplicité qui ne divise plus, mais qui unifie dans l'amour-conscience.
Comment arriver à contacter l'alchimiste en soi pour faire cesser un manque de respect d'un supérieur, entre parenthèses un patron, à mon endroit, et entre parenthèses des mots grossiers, etc.
C'est très amusant parce que vous n'avez pas encore vu que ce patron était votre projection. C'est-à-dire que c'est vous qui l'avez créé. Vous l'avez créé pour voir comment vous vous traitez, comment vous manquez de respect à votre égard, comment vous vous empêchez, par exemple, de quitter cet emploi où vous n'êtes pas respecté. Ou vous pourriez, par exemple, prendre cette décision de dire à votre patron, « Moi, je vous remets ma démission, non pas parce que vous ne me respectez pas, mais parce que moi, j'ai décidé de me respecter. » Alors, nous vous dirons, « Bénissez ce patron. Il est là pour vous montrer le respect envers vous-même. » Et lorsque vous aurez compris ceci et rapatrié cette projection, et que vous l'aurez déposé dans le mercure de la conscience, nous vous dirons à ce moment-là, vous ne serez plus touché par les gros mots de votre patron.
Comme il serait peut-être possible aussi d'avoir une rencontre vraie avec ce patron, simplement pour exprimer ce que la personne peut ressentir.
À la condition qu'elle ait rencontré son patron intérieur en premier lieu.
Alors, pourquoi nous faut-il croire sans voir? J'ai l'impression que c'est un éternel recommencement.
Lorsque vous dites croire sans voir, c'est que là, vous vous arrêtez au niveau des sens. Au niveau des sens, vous voyez bien la voiture qui est dans le stationnement, l'homme qui traverse la rue sur une lumière rouge. Vous voyez toutes les réalités qui sont extérieures à vous. Mais parce que vous n'arrivez pas à voir une réalité qui est extérieure, vous croyez qu'elle n'existe pas. Et nous vous dirons, pourtant, ce qui est dans le non-manifesté est beaucoup plus vaste que ce qui est dans le manifesté. Nous vous expliquerons que quelque part, lorsque vous aurez quitté le monde de la dualité et que vous aurez accompli ce travail, que les verseurs d'eau que vous devenez, puisque vous entrez dans l'ère du Verseau, accomplirez, nous vous dirons, vous allez comprendre qu'il y a un monde qui existe et que vous ne voyez pas, mais que vous pressentez très bien. Vous pressentez, par exemple, que quelque part, il y a une terre parallèle au-dedans de vous, Où habite cette paix? Où sont ces grands jardins fleuris de l'harmonie intérieure? Vous savez bien que cela existe, sans quoi vous ne pourriez pas en rêver. Mais quelque part, c'est comme si vous êtes tellement habitué d'aller dans le sens de la dualité que vous n'arrivez pas à vous fier à votre intuition, à vous fier à cette ouverture intérieure qui vous conduit vers ce monde transcendantal. Soyez patient, devenez alchimiste, et vous allez bien comprendre que ce que vous dites dans votre question est uniquement passager.
Je sens non seulement dans la salle, mais un égrégore très puissant qui souvent nous empêche de contacter cet alchimiste, et c'est la confiance en soi. Possible de nous en parler, s'il vous plaît?
Certainement, nous vous dirons d'abord, si vous revenez aux commentaires d'ouverture que nous avons donnés, vous pouvez comprendre que pendant des centaines et des centaines d'années, vous avez été des petits anneaux soumis qui devaient ramper sous la clôture. Alors, ceci n'était pas là pour vous donner une grande confiance. Et nous vous dirons ensuite, lorsque vous avez mis de côté tous ces interdits qui vous avaient été proposés par les églises, vous vous êtes créé une société autour de vous qui, elle, n'a pas mis d'interdits, mais a mis des critères de comparaison, où vous devez avoir telle forme physique, où vous devez avoir telle compétence, où vous devez avoir telle apparence, où vous devez avoir tel bien matériel, et ainsi de suite. Et nous vous dirons, c'est une autre forme de soumission. La société est la polarité de l'Église. Si l'Église a castré les gens, la société les a aussi amenés dans une forme d'orgie. Mais vous, vous avez à rapatrier ces énergies à l'intérieur de vous pour aller en chercher l'essence.
Et croire avec certitude que cet alchimiste, il est là.
Exactement. Et nous vous dirons, nous le répétons, c'est une démarche individuelle. Personne ne peut vous donner la confiance, excepté vous. C'est toute une responsabilité, n'est-ce pas? C'est une responsabilité grandiose. Et il n'y a que les humains qui peuvent être des alchimistes et faire le lien et la synthèse. Les humains sont des points de synthèse entre la matière et l'esprit. Est-ce que ce n'est pas magnifique? Pas nécessairement toujours facile, mais c'est magnifique.
Alors, la prochaine question, j'ai appris à accueillir mes polarités. Mais comment l'alchimiste peut m'aider de façon concrète dans cette troisième dimension?
À la condition d'aller au-delà de vos trois chakras de la base. Les choses ne se régleront jamais dans les trois chakras de la base. Ils se régleront à partir du cœur en allant, nous dirons, dans les dimensions où quelque part il n'y a plus cette division, il n'y a plus ce jugement, il n'y a plus ces interdits, il n'y a plus ces normes, il n'y a plus cette morale. Nous vous dirons, il n'y a que la neutralité de l'amour-conscience. Alors il faut développer cet amour-conscience à l'intérieur de vous et vous élever comme au sommet d'une pyramide et regarder en bas de la pyramide les deux petites polarités qui, nous dirons, se tiraillent ou se montrent l'épée. Vous devez transcender cette énergie.
Alors, comment composer avec l'énergie qui deviendra plus forte au cours des prochaines années?
Nous vous dirons, d'abord, dans un premier temps, ne pas vous inquiéter. Ce n'est pas par hasard que vous êtes passé par tout le processus des églises, que vous étiez d'abord passé par la Lémurie ou que vous étiez passé à travers l'Atlantide ou tous ces pays de Grèce et d'Égypte et ainsi de suite. Nous vous dirons, tout ceci était une démarche très logique, même si elle était très longue parce que l'énergie était très dense. Ce n'est pas par hasard que vous êtes passé par les églises et ensuite par les sectes et que maintenant vous entrez dans cette ère du Verseau. Alors, en entrant dans cette ère du Verseau, bien sûr, vous allez vivre des contractions parce que vous allez passer de l'homme esclave à l'homme nouveau. Vous allez passer du petit moi boudeur et du petit moi tapageur au grand moi qui s'actualise à l'intérieur de lui et qui devient créateur et co-créateur avec le Père. Alors nous vous dirons, bien sûr, vous allez vivre des contractions, mais ceci sera nécessaire. Et si vous êtes déjà dans cette conscience que c'est un processus, que vous n'avez pas à vous inquiéter, mais que vous avez à couler dans la rivière de ce processus, alors vous ne mettrez pas toute votre énergie dans une tension inutile. Vous allez tout simplement vous laisser couler dans la rivière. Et plus vous serez en contact avec le moi supérieur, qui d'ailleurs, lui, connaît depuis les millénaires votre itinéraire particulier, il saura vous conduire exactement là où vous allez. Et sachez bien que vous n'aurez pas d'accident dans le tunnel.
Après un divorce, comment retrouver mon pouvoir affectif et financier assez vite? Existe-t-il un exercice pour me libérer de notre insécurité?
D'abord,
la gorge travaille.
Dans un premier temps, ne pas vouloir aller vite. Imaginez que vous venez de sortir de chez le pharmacien qui vous annonce que vous êtes enceinte. Vous entrez à la maison dans la surexcitation et vous dites « je veux accoucher ». Est-ce que vous croyez que ceci est raisonnable? Pas du tout. Vous venez par ce processus de séparation. Peur de vous, le germe de votre autonomie, de votre identité à vous-même, de votre individualisation. Ayez suffisamment d'amour pour cet enfant qui est en train de naître au-dedans de vous pour vous donner de la patience. Si vous êtes patiente, si vous croyez que votre moi supérieur a fécondé ce germe du geste que vous avez posé dans votre nature de matière, nous vous dirons, sachez qui ne vous privera de rien à aucun niveau.
En quatrième dimension, alors que nous pourrons manifester instantanément tout ce que nous désirons, aurons-nous alors cheminé au maximum de notre alchimie individuelle dans cette dimension, comme créateur ou comme co-créateur?
Nous vous dirons, vous aurez sans doute cheminé au maximum de votre capacité de cette dimension, mais ce ne sera qu'une première étape, un grain de sable sur la plage que vous êtes, puisque nous vous dirons, vous êtes infini. Vous n'avez pas fini de co-créer et de créer des mondes. Vous êtes co-créateur lorsque vous commencez à comprendre que vous avez capacité par la force de votre pensée, non pas par la force de votre mental, mais d'une pensée qui est bien articulée, d'une pensée qui est véritablement dans la jonction de cet amour et de cette conscience, et que là, vous savez qu'il est intuitivement nécessaire de poser un geste de création, alors vous devenez co-créateur avec tous vos frères qui entrent dans cette quatrième dimension. Vous devenez co-créateur d'une humanité nouvelle, d'une race tout à fait nouvelle, que vous ne pouvez même pas aujourd'hui intuitionner. Vous allez avoir un fichu réveil lorsque vous allez voir où vous arrivez, où vous allez bondir. Mais pour cela, il faut être dans le ici et maintenant, non pas nécessairement linéaire, puisque vous devez avoir une vue d'ensemble, une vue globale, et de vous-même, et de l'humanité. Et alors, ceci ne se voit pas dans le linéaire, ceci se voit dans ce que nous appelons le présent éternel, si vous voulez.
On demande ici un exercice pratique par rapport à comment libérer des énergies d'une alchimiste qui a manipulé des énergies dans ses vies antérieures, dont les résultats ont été dans le poumon et... Mon Dieu.
Nous avons compris, André.
Et la magie noire, pardon.
Alors nous vous dirons accueillir cette réalité. Prenez la magie noire, l'alchimie noire, et prenez l'alchimie blanche et la magie blanche. Unifiez-les dans l'amour-conscience, dans cette, nous dirons, dans cette énergie transcendantale, et laissez les choses s'accomplir. Si vous voulez garder cette magie noire à l'intérieur de vous, qu'elle ne cesse pas de vous interpeller, alors nous vous dirons, n'arrêtez pas d'y penser. Si vous voulez qu'elle quitte votre énergie, arrêtez de lui donner du pouvoir. Arrêtez de donner du pouvoir au passé, arrêtez de donner du pouvoir au futur et vivez ce qui est dans le présent, qui est le plus parfait.
Vous avez déjà parlé dans une autre conférence, qui était le corps émotionnel ancien et nouveau, que l'important était de se libérer de la dualité et non pas de s'acheminer vers une polarité.
Exactement.
Alors, c'est possible de parler de cet alchimisme à l'intérieur de ce mouvement.
Exactement. C'est exactement ce que nous avons expliqué précédemment lorsque nous avons parlé de l'erreur commune que vous avez créée lorsque vous étiez la chrétienté ou l'Église. Nous vous dirons, et l'erreur que vous avez commise, c'était de favoriser une polarité et de vouloir éliminer l'autre polarité. Nous vous dirons, la clarté n'élimine pas la noirceur, elle vient quelque part épouser la noirceur. Et nous vous dirons, lorsque la noirceur est épousée et accueillie par la lumière, il y a l'essence lumière qui s'installe. Alors nous vous dirons, il ne s'agit pas de les mettre l'une contre l'autre, de dire, moi, je ne veux plus jamais la colère dans ma vie, je bannis cette colère, je la hais et je la rejette. Elle reviendra comme le petit chien qui vient vous mordre la cheville. Elle reviendra sans cesse. Elle reviendra dans votre sommeil. Elle reviendra dans votre rêve. Elle reviendra dans vos relations. Elle reviendra dans les émissions de télévision que vous regarderez. Elle reviendra sur les champs de bataille parce que quelque part, vous l'aurez jugée et vous l'aurez niée. Mais si vous acceptez d'accueillir cette colère et de savoir qu'elle est une vibration, et qu'elle a un opposé qui est cette paix, et que vous faites ce processus d'unifier ces deux énergies, nous vous dirons alors, vous deviendrez la paix. Vous n'aurez plus besoin de vous battre contre la colère ou contre la guerre, vous serez devenu cette paix.
Lorsque consciemment, je mets en mouvement, j'active l'énergie pour une création dans ma vie et que je la demande, en notant que cela est en concordance avec mon évolution. J'aimerais avoir un commentaire à ce sujet.
Alors, nous vous dirons que très souvent, pas toujours, mais très souvent, lorsque vous dites à l'univers, « Je voudrais bien que tu me trouves un nouvel emploi » ou « Je voudrais bien que tu me trouves un amoureux » ou « Je voudrais bien que tu m'aides à payer mes dettes » ou « Je voudrais bien que tu me fasses accumuler de l'argent pour avoir un voyage. » Nous vous dirons, là, vous n'êtes pas dans le lâcher-prise. Vous êtes dans le désir. Tant que vous êtes dans le désir, vous n'êtes pas en communion avec le présent. Le présent de ce que vous vivez est le plus parfait. Et nous vous dirons, dès que vous vous mettez à désirer, vous êtes d'abord dans un futur et vous avez aussi accroché à ce futur des mémoires du passé. Là, vous êtes dans la division. Laissez donc votre moi supérieur être le chauffeur de votre limousine. Nous le répétons, il n'y aura pas d'accident dans le tunnel.
Je n'arrive pas à me détacher des événements que je vis. C'est comme si je n'arrivais pas à me distancier des émotions. Que puis-je faire pour me ramener dans la conscience?
D'abord, en premier temps, nous le disons tout bas, savoir que vous aimez votre prison. Si vous n'aimiez pas votre prison, vous sortiriez de cet état de victime. Non pas en jugeant la victime, mais en l'accueillant, Vous vous battez contre vous-même et vous êtes surprise d'avoir des bleus. Cessez de vous battre contre vous-même. Laissez votre moi supérieur conduire la voiture. Et vous, comme passager de cette voiture, placez-vous dans l'observation. Regardez passer autour de vous le paysage de vos émotions, le paysage de vos colères, le paysage de vos peines, le paysage de vos manques, le paysage de tout ce qui est. Mais vous ne restez centré que sur la certitude qu'il n'y a pas un seul événement, fût-il celui de frapper une pierre avec le bout du pied, qui n'est pas déjà mesuré par votre moi supérieur. Est-ce que cela n'est pas trop facile? Vous préférez la prison parce que vous habitez la prison depuis les millénaires. C'est cela que vous connaissez, comme vos vieux souliers, vos vieilles pantoufles, votre bon vieux fauteuil. On vous en présente un nouveau, on vous en offre un nouveau, mais la crainte vous habite de quitter ce qui est derrière vous. Lâchez le passé, laissez le futur au futur et vivez intensément le présent. Vivez-vous dans le présent. Sentez-vous respirer. Accompagnez-vous vous-même dans le sommeil, dans la démarche, dans l'ingestion de nourriture, dans le travail que vous faites. Accompagnez-vous vous-même. Aimez-vous, vous vous en allez tous. Écoutez bien ceci, il n'y en a pas un seul qui va rester derrière, le voudrait-il. Nous vous dirons, vous vous en allez tous vers cette illumination et au-delà de cette illumination, vers l'éveil, qui vous fera sortir définitivement, individuellement d'abord, collectivement ensuite, de cette prison infernale que vous fréquentez avec des puces et des punaises depuis des millénaires.
Alors, quelles sont les contraintes karmiques que j'ai à traverser pour que mes guides puissent enfin intervenir sur moi? Je suis désireuse de les laisser agir et je sais qu'ils me soutiennent de leur amour et de leur lumière. Mon désir pour être initié au Reiki 3 est très fort en moi.
Et si nous vous disions que vous venez de tenir un langage d'illusion? Oh là là, cela ne fait pas l'affaire, n'est-ce pas? Lorsque vous dites « Comment puis-je faire pour laisser faire mes guides ?» vous donnez votre pouvoir à l'extérieur. Vous êtes votre guide, vous êtes votre gourou, vous êtes l'androgyne, vous êtes l'ange, vous êtes le maître de votre maison. Ne donnez pas votre pouvoir. Et tous ces êtres auxquels vous faites allusion, s'appellerait-il Melchisédek, s'appellerait-il François d'Assise, peu importe le nom que vous lui donnez, s'appellerait-il Michael ou Uriel ou Gabriel ou Raphaël ou tous les anges ou tous les archanges, ce sont des cellules de votre moi supérieur. Cessez de voir ceci à l'extérieur de vous et alors, personne ne pourra vous empêcher d'être en contact. C'est avec vous que vous devez être en contact et c'est avec vous que vous devez créer cette unité. Nous le répétons, non pas que vous ayez à atteindre la perfection, mais que vous ayez à atteindre l'unité au-dedans de vous. Alors, rapatriez ces guides, rapatriez ces maîtres, rapatriez ses gourous, rapatriez Bouddha, rapatriez Jésus, rapatriez tous les maîtres et placez-les au-dedans de vous et sachez que c'est votre énergie et que vous n'en êtes pas séparés. Ils vous l'ont crié sur tous les toits, mais vous n'avez pas voulu l'entendre. Jésus a dit de façon tellement claire, « Je fais un avec le Père et je fais un avec chacun de vous. » Il n'y a pas de division. C'est ça le grand mensonge cosmique.
Par rapport à ce que vous venez de mentionner, il y a une question qui dit, lorsqu'on parle de la Trinité, le Père divin, la Mère divine, le Fils divin, alors comment visualiser ces trois énergies?
Amour, conscience, connaissance. C'est simple, n'est-ce pas? Mm-hmm. Et tout cela vous habite.
Dans quelle mesure est-ce que quelqu'un qui fait du tarot peut connaître l'avenir à l'avance?
Nous vous dirons si la personne qui fait du tarot est une personne qui est très centrée, qui est dans sa colonne de lumière, qui est, nous dirons, bien branchée sur son canal intuitif. Elle a la capacité de monter dans la pyramide pour être capable de percevoir à la fois le passé et le futur. Mais nous vous dirons, les perceptions qu'elle a ne sont pas des perceptions arrêtées. Ce sont des perceptions énergétiques que vous avez la capacité de transcender et de transformer. Alors nous vous dirons, si vous consultez quelqu'un qui est véritablement centré à l'intérieur de son canal, il peut vous donner des informations très judicieuses et très importantes. Mais sachez bien que ce n'est pas lui qui vous les donne, puisque cette réalité vous appartient, c'est votre présence qui permet à ce canal énergétique de pouvoir, nous dirons, faire la synthèse de ces énergies.
Est-ce que les polarités ne sont que dans les plans de l'astral?
Les polarités ne sont que dans les plans de l'astral.
Est-ce qu'il y aura un déséquilibre au niveau du Québec par rapport au décès de Mère Teresa?
Pourquoi un déséquilibre au niveau du Québec? Nous vous dirons, le Québec, il est déjà en déséquilibre de partout. Que ce soit Mère Teresa, que ce soit Lady Di, que ce soit cette petite dame, nous vous dirons, qui est décédée avec son ami, et nous vous dirons que vous avez beaucoup louangé. Nous vous dirons, peu importe, il y a plein de déséquilibres dans le Québec. Essayez de marcher en gardant vos deux pieds à la même place. Êtes-vous capable? Vous savez bien que non. Mais si vous avez vos deux pieds par terre et que vous décidez de faire un pas en avant, veuillez ou ne veuillez pas, vous êtes une fraction de seconde en déséquilibre. C'est-à-dire que tout le poids de votre corps n'est que sur un seul pied. Mais cela vous permet d'avancer. S'il y a des déséquilibres, alors tant mieux. Gérez-les cependant.
On demande ici d'éclaircir davantage par rapport aux trois jours de noirceur que l'on compare un peu comme la descente des enfers que Jésus-Christ a fait.
Nous vous dirons, tout ceci est symbolique. Vous devez bien le comprendre. Et si vous arrivez à le comprendre, vous saisirez à la fois qu'il y a le conscient et l'inconscient. Et que dans le grand bassin de l'inconscient, nous vous dirons, toutes les mémoires anciennes sont contenues, tous vos fantômes sont contenus, tous les archétypes sont contenus. Être capable de descendre dans ce grand bassin de l'inconscient pour connaître ces monstres et ces fantômes, les amener à la surface et voir qu'ils ne sont pas des diables, mais qu'à un autre niveau, ils sont des anges, alors nous vous dirons, ceci vous permet de pouvoir transcender l'obscurité. Descendre dans les enfers, c'est accepter de descendre à l'intérieur de soi pour voir le chaos, pour voir ce qui est en déséquilibre, comme vous venez de le dire, et être capable d'amener cette énergie à la conscience, afin que cet amour-conscience puisse vous permettre de créer à ce moment-là l'axe dont parlait André tout à l'heure, qui est, nous vous dirons, dans la croix des Rosicruciens, avec à son centre la rose rouge, qui est le symbole de l'illumination. Alors, nous vous dirons que c'est à ceci que sert le déséquilibre, c'est à ceci que sert les trois jours de noirceur. Il y en a qui ont déjà traversé les trois jours de noirceur parmi vous et qui sont déjà sur le chemin de l'illumination, qui sont déjà des illuminés et qui s'acheminent vers cet éveil total de l'être qui suppose l'unification de toute polarité et l'entrée dans l'ère du Verseau, qui n'est pas entrée quelque part à l'extérieur comme dans une autre pièce, mais qui est accédée à une nouvelle conscience.
Donc, ceci rejoint votre commentaire d'ouverture lorsqu'il était mention que c'est chacun de nous.
Individuellement. Exactement. Chacun de vous individuellement qui vous devez vous identifier à la totalité de ce que vous êtes, parce que sachez bien que vous êtes identifié à tout sauf vous-même. Vous êtes identifié à votre père dont vous portez le nom, vous êtes identifié à votre mère dont vous gardez des séquelles peut-être du père et de la mère, vous êtes identifié à vos frères et vos sœurs, qu'ils sont soit plus jeunes ou plus vieux, vous êtes identifié à votre emploi, vous êtes identifié à votre degré de culture ou votre degré de science ou de connaissance dans la matière, à une maîtrise ou à un doctorat, ou nous vous dirons à une tâche que vous accomplissez comme médecin ou comme avocat ou comme professeur ou comme lave-plancher ou peu importe, vous êtes identifié à tout cela alors que vous n'êtes rien de cela. Vous êtes le divin, mais vous avez oublié que vous étiez le divin et vous vous êtes identifié à tout ce qui était extérieur à vous. Alors votre démarche, c'est de défaire les vieilles identifications pour pouvoir arriver à retrouver cette colonne de lumière que vous êtes.
Alors, il y a une insistance ici qui dit, ben, vous m'en avez révélé déjà beaucoup, je suis gourmand, n'est-ce pas?
Alors, ah, gourmand.
Alors, pourriez-vous nous en révéler davantage au sujet de tant de lumière que l'humanité et Terre recevra en ce nouvel an de 98?
De lumière que la Terre recevra, oui, en 98?
L'humanité et la Terre.
Nous vous dirons, l'humanité est parsemée partout dans vos rangs. Il y a des êtres de lumière. Vous en êtes. Tout à l'heure, lorsque vous serez dans votre voiture ou dans l'autobus ou dans la maison, peut-être votre conjoint vous attend ou les enfants, nous vous dirons, c'est un être de lumière qui entrera dans la maison. Comment pourrions-nous dire? Ne déifiez pas les êtres de lumière, mais reconnaissez plutôt l'être de lumière que vous êtes. Nous vous dirons, si vous devenez tous des illuminés, où sera l'obscurité? Vous êtes des êtres de lumière en puissance, tous. Et pourquoi cette lumière n'est-elle pas visible? Parce que quelque part, vous avez mis le boisseau par-dessus. Vous n'avez qu'à lever le boisseau et vous faire la surprise. Mettez votre lumière sur le candélabre, non pas avec votre ego, mais avec votre certitude intérieure.
Quelle attitude, en tant qu'alchimiste, devons-nous prendre par rapport à l'ego?
Ah, ça c'est bien. Nous allons vous dire que l'ego est nécessaire. Un enfant qui n'aurait pas d'ego en bas âge mourrait. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que si quelqu'un, à la naissance, lorsqu'il vient avec un père et une mère, et qu'il ne peut pas quelque part manifester qui il est, alors c'est comme s'il n'avait plus d'existence. Il est nécessaire qu'un enfant développe son ego. Et nous vous dirons qu'il n'a pas 20 ans avant que vous ne voyez cet ego, n'est-ce pas? Déjà, tout petit, lorsqu'il commence à dire « ça c'est à moi, seulement à moi, mon jouet à moi, mon bonbon à moi, la cuillère à moi, maman à moi, et tout est à lui ». Pourquoi est-ce que tout est à lui et qu'il veut tout posséder? Parce que quelque part, il est en train de développer son ego, et si tout lui appartient, alors il peut être tranquille par rapport aux autres. Très jeune, l'enfant développe son ego. Cet ego, vers l'âge de 7 ans, se cristallise. Et l'enfant, tout le reste de sa vie, nous dirons, sera confronté avec l'ego qu'il avait à l'âge de 7 ans, qui prendra, bien sûr, qui poussera des tentacules et qui prendra des formes et des expansions, mais quelque part, c'est toujours ce même ego. Alors, l'ego était nécessaire pour que l'être puisse se dissocier suffisamment de l'autre pour se reconnaître lui-même. Mais lorsque l'être est arrivé à un niveau de conscience où il se reconnaît lui-même, où il n'a plus besoin de quémander la reconnaissance des autres, nous vous dirons alors, il n'a plus besoin de son ego, parce que l'ego maintient dans la comparaison, maintient dans l'émotion, qui dit « Lui est plus parfait, moi je suis moins bon, lui il est ok, moi je ne suis pas ok » et ainsi de suite. Et ce sont ces jeux éternels de l'ego. Alors nous vous dirons, à mesure que vous avancez dans la conscience, vous n'avez plus besoin de rien prouver. Nous avons dit tout à l'heure, voulez-vous un signe parfait que vous êtes devenu un alchimiste? Vous le saurez lorsque vous n'aurez plus besoin de rien défendre. Lorsque vous n'aurez pas besoin de défendre votre point de vue, votre valeur, que ceci est mieux, que cela est moins bien, nous vous dirons, vous saurez alors que vous êtes dans l'unité, que vous ne jugez rien, que vous pouvez observer à l'extérieur de vous des gens qui sont dans cette bataille, mais que vous n'êtes pas, nous dirons, en contradiction avec ces gens. Vous êtes plutôt dans la compassion et vous les aimez dans le cheminement là où ils sont rendus. Alors nous vous dirons, vous n'avez rien à prouver. Et l'ego, lui, a tout à prouver parce qu'il se compare et il se compare parce qu'il pense qu'il n'est pas assez bon. Donc il doit prouver qu'il est le meilleur. Et nous vous dirons, toute votre société est basée sur l'ego. Celui qui sera le plus beau, qui sera le plus mince, qui sera le gagnant, qui rapportera la médaille, nous vous dirons, qui rapportera la course, qui sera le meilleur, qui aura les meilleures notes en classe, qui aura le plus haut degré universitaire. Nous vous dirons, toute votre société est basée sur la nourriture de l'ego. Mais quelque part, tout cela va s'effondrer.
Je pensais de nous informer si l'alchimiste est en fonction lorsque nous rêvons, lorsque nous dormons.
Certainement, parce qu'il vous amène dans le bassin de l'inconscience. Et dans l'inconscience, il n'y a pas de mental. Regardez bien, par exemple, vous faites un rêve qui dure peut-être une minute et demie, mais qui vous apparaît deux heures. Dans ce rêve, vous êtes tout à coup en Italie, vous êtes une jeune femme. 30 secondes plus tard, vous avez l'impression d'être un roi assis sur son trône. Et ensuite, vous êtes la femme de ménage qui est en train de laver le parquet de la salle de bain. Et tout ceci mêlé dans le même rêve. Alors, que fait votre alchimiste? Il vous amène dans le bassin de l'inconscient pour vous révéler des parties de vous qui ont besoin d'être libérées. Mais vous dites, ah, ce n'était qu'un rêve. Et c'était un cadeau du ciel, mais vous ne l'avez pas reconnu, cette manne. Lorsque vous serez capable, nous dirons, de faire la cueillette de vos rêves, comme vous faites la cueillette, nous dirons, de bijoux qui viennent de tomber devant vous, nous vous dirons, à ce moment-là, l'alchimiste sera très heureux parce qu'il vous permettra plus rapidement de rendre conscient ce qui est inconscient.
Lorsque je suis entre justement le sommeil et l'éveil, il y a des sons, des paroles et je me sens comme dans un autre espace. Il y a aussi parfois des bourdonnements au niveau des oreilles. Alors, c'est possible de nous expliquer ces phénomènes.
Nous vous dirons que ces phénomènes peuvent avoir des multitudes d'interprétations. Si vous êtes bien centré à l'intérieur de vous, et que vous êtes dans ce que nous appellerons l'énergie d'acceptation, et que vous dites, j'accepte que mon mental ne sache pas ce qui se passe, mais que mon moi supérieur ne déroule pas devant moi tous ces films, pour que, fort probablement, je sois capable d'assimiler cette énergie et de la transformer, alors, dans ce lâcher-prise, vous serez l'alchimiste. Mais vous vous torturez avec les pourquoi. Laissez votre moi supérieur conduire la limousine. Il n'y aura pas d'accident dans le tunnel.
Il y a déjà eu une demande avant qui a été faite, et puis c'est comme s'il y a un ajout. Le nom Marie-France Goldberg, qui demeure au carré Phillips à Montréal, aimerait savoir que si le problème qu'elle a à la glande thyroïde est dû au changement dont vous avez déjà parlé, c'est-à-dire transformation dans nos corps, l'énergie photonique. Alors, les médecins veulent l'opérer et elle demande si cela est nécessaire.
Nous allons conseiller à cette dame d'entrer en contact avec la forme Louise, qui pourra lui référer une femme capable de la traiter à ce niveau avant qu'elle n'accepte une chirurgie. Souvent, dans les chirurgies, on enlève la glande et on ampute la personne. Cependant, nous vous dirons que si le mal est trop avancé, la personne qui subira cette chirurgie peut comprendre et saisir que jamais un médecin n'a le pouvoir de faire une chirurgie dans le corps énergétique. Alors qu'elle s'adresse d'abord à la guérison de cette glande dans son corps énergétique. Nous donnons un exemple. Imaginez que vous avez été opéré pour l'appendicite lorsque vous aviez 7 ans et que cet appendicite était très endolori et très rempli de pus. Nous vous dirons, et que vous n'avez eu aucune chance de vous adresser d'aucune façon à la guérison de cette, infection et de cette partie de votre corps que le médecin aura ou que le chirurgien aura prélevé. Mais sachez bien que cet appendicite peut demeurer malade dans votre corps éthérique et que vous pouvez continuer d'avoir la douleur. Alors l'important, c'est vous de vous adresser à la guérison de votre corps éthérique, vous en avez le pouvoir. Alors s'il y en a parmi vous, et ils sont nombreux, qui avaient subi des ablations et des chirurgies, alors allez travailler comme chirurgien dans votre corps éthérique.
Comme ma dernière question, avant de conclure, on demande la signification d'un nom qui a été reçu lors d'une méditation et qui, dont la personne l'a reçu ou l'a senti au niveau du chakra du cœur. Et le nom, c'est E-A-T-H-A, A-Y-A-T-H-A.
Alors, nous vous dirons, c'est une vibration. Une vibration dont vous avez probablement besoin pour être capable de créer un équilibre dans votre énergie. Mais nous vous disons, ne vous attachez pas à ceci. Ceci pourrait être aussi le symbole que vous avez à vous identifier autrement. Alors, regardez dans la vie à qui et à quoi vous êtes identifié. Regardez surtout si vous vous identifiez à vous-même. Car il y a un danger parfois dans la méditation où vous allez dans les plans supérieurs de l'astral et vous contactez toutes sortes de formes énergétique que vous recevez si vous êtes poreux. Et alors, vous pouvez idéaliser ces formes en devenir des esclaves. Vous pouvez aussi être esclave de la lumière des hauts plans de l'astral, autant que vous pouvez être esclave de l'enfer. Alors, nous vous dirons, n'attachez pas une importance, nous dirons, capitale à cette réception. Cependant, ne la jugez pas. Et dites à votre moi supérieur, tiens, je te donne ceci, mets-le dans ta poche, mais ne cesse pas de bien conduire la limousine.
Est-ce possible de conclure dans 1:30, s'il vous plaît?
Certainement, nous allons conclure rapidement en vous disant que si vous êtes venu ici ce soir, c'est parce que déjà vous aviez votre diplôme d'alchimiste. Alors, allez chacun d'entre vous dans votre propre maison intérieure, dans le laboratoire de votre cœur où se trouve ce métal précieux qui est, nous l'appelons métal, mais qui est amour et conscience, où vous avez la capacité de tout transcender, et que la paix et que la sérénité et que l'espérance vous habitent à jamais. Amen.
Un tout petit mot pour nous parler peut-être de cette énergie que j'ai tellement sentie au début.
De la colère?
Non, dans cette salle ici. L'énergie de lumière.
C'est que vous avez senti dans cette pièce que les gens étaient... que vous veniez de sortir ou d'entrer dans une classe universitaire d'alchimistes qui viennent de recevoir leur diplôme. Et maintenant, ils doivent aller à la pratique.
Voilà. Merci. Alors, nous remercions le chariot blanc. Et principalement de tous ces messages venant de la supraconscience qui viennent simplement nous révéler cet état de conscience dans lequel nous sommes également. Alors, suivant le besoin, veuillez s'il vous plaît procéder.